Ecclésia Magazine vous est présenté avec la Fondation nationale pour le clergé.
Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dahl.
Aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, nous allons parler du chant grégorien. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, doit occuper la première place. C'est un extrait de la constitution du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie. Alors une question de taille se pose aujourd'hui. Quelle est la place du chant grégorien dans la liturgie? Le chant grégorien est-il à la portée de tous? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rentière, enseignant à l'école du chœur grégorien de Paris. Il est à l'initiative de l'atelier d'initiation. Frédéric Rentière, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question tout d'abord. Cette passion du grégorien, elle vous est venue rapidement, parce que vous êtes jeune, il faut le dire.
Oui, je ne suis pas encore suffisamment vieux pour qu'on me dise jeune.
Alors cette passion du grégorien, elle est nouvelle chez vous ou c'est quelque chose qui date maintenant?
Ah, ça date quand même, ça date, mais je ne suis pas né dedans, je ne suis pas tombé dans la marmite grégorienne. Loin de là, mon parcours, c'est d'abord un parcours de chanteur et de chef de chœur. Et j'ai été beaucoup plus dans des musiques du XXe siècle et de l'époque baroque, mais toujours fasciné par les emprunts que faisaient ces musiques à des musiques ecclésiastiques plus anciennes. Et c'est ce qui m'a amené, chemin faisant, au grégorien, progressivement. Et c'était à peu près il y a une quinzaine d'années, finalement, que j'ai découvert d'abord cet univers, que je suis tombé sur des livres de chant avec des signes qui me semblaient à l'époque non décryptable et que j'ai souhaité décrypter.
On appelle les neumes.
Les fameux neumes, voilà, c'est ça, dont l'étymologie viendrait de pneuma, le souffle. Et c'est en fait, quand j'ai commencé ces nouvelles recherches, je n'ai pas été déçu, puisqu'en fait, toutes les interrogations de mon parcours musical, j'ai eu des réponses, en fait, notamment sur la question du verbe, de la psalmodie, de la force du texte et de son lien avec le chant, intime avec le chant.
Alors avant d'entrer dans les spécificités du chant grégorien et son histoire, cette phrase du Concile Vatican II sur le chant grégorien, qui doit occuper la première place dans la liturgie, oui. C'est vrai que ça peut nous paraître assez étonnant aujourd'hui, parce que quand on entend chant grégorien, on pense tout de suite au monastère, oui. Et pas forcément à la liturgie, on va dire, qu'on peut vivre dans les paroisses.
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la démarcation est importante, quand je connais aussi bien le contexte, je comprends tout à fait. Je pense que si on se repositionne à l'époque du Concile, c'était tout simplement le fait de rappeler que le chant grégorien reste quand même la liturgie qui nous a été léguée, qui finalement est porteuse de la mémoire de toute la tradition catholique latine. Après, quant à la question de la place dans les paroisses ou pas, longtemps je me suis posé la question, ayant moi-même été chanteur-animateur dans des paroisses, dans plusieurs paroisses. Et très vite, je me suis rendu compte que le problème n'était pas la question a-t-il une place ou pas, mais tout simplement comment transmettre. Comment transmettre pour qu'il reprenne une place qu'il a eue et qu'il peut tout à fait retrouver. Il n'y a aucune raison que 50 ans après, elle ne revienne pas. Et d'où l'atelier d'initiation, c'est-à-dire que ce qui manque le plus souvent, c'est des transmetteurs, des médiateurs, des pédagogues qui transmettent l'essentiel, en fait, l'esprit du chant grégorien.
Parce que la question est aussi de savoir, finalement, si une assemblée peut suivre, on va dire, le chant, je veux dire, ne serait-ce que vocalement, une partition. Alors, de chant grégorien.
Pour avoir connaître assez bien le répertoire en français dans les églises et puis le chant grégorien, je peux dire que c'est pas plus difficile de chanter une antienne grégorienne ou un kyrie ou un sanctus que de chanter une mélodie en français qui souvent est à des complexités harmoniques, parce qu'évidemment, souvent, ce sont des mélodies qui sont composées par des organismes, par exemple, et qui ont un goût pour l'harmonie. Et j'ai le souvenir des fois de mélodies vraiment difficiles pour l'assemblée. Donc, je pense que c'est pas un problème de difficulté, sachant que dans l'histoire de le répertoire et la structure elle-même, il y a une grande partie du répertoire qui est faite pour être chantée par l'assemblée. puisque c'est censé, la question de la participation active ne se pose pas dans le chant grégorien, puisqu'elle est intégrée même à la structure de la liturgie. Le chant grégorien est forcément l'image, à l'image de la liturgie, et l'assemblée a toujours participé. Maintenant, c'est la question de l'assemblée doit-elle toujours participer, finalement. C'est là que ça se situe, la problématique de la place du grégorien. Elle est nécessairement liée à ça. Je pense que la participation est toujours active. De toute façon, le mot participation implique une action. C'est un substantif actif, voilà. Et et le fait qu'elle soit active, c'est le fait qu'il y ait une participation vocale, une participation par la présence. Mais il ne faut pas oublier que la présence peut aussi être dans la réceptivité. Quand on rentre dans l'esprit de la liturgie, on sait très bien que c'est une alternance entre présence réceptive et présence active.
Alors Frédéric Rentière, on va continuer bien sûr cette discussion sur le chant grégorien. On va aussi parler de l'histoire du chant grégorien, de son apogée, de sa situation actuellement, aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais écouter un petit morceau que vous nous avez apporté, Sanctus Hosanna Salvifica. Peut-être pouvez-vous, pour commencer, nous présenter ce morceau.
Alors il s'agit d'un Sanctus en fait qu'on trouve dans le Codex Calistinus, le livre des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, qui est un Sanctus dit tropé, c'est-à-dire avec des ajouts de textes que j'ai enregistrés avec l'ensemble médiéval dont je m'occupe, Vox in Rama. Et donc ce Sanctus justement allie des choses très simples, vraiment une partie qu'on appelle l'ordinaire, avec des parties plus délicates chantées par des solistes.
On écoute. Donc c'était un extrait de Sanctus Hosanna Salvifica. Alors c'est vrai que ce que l'on retient quand on écoute cet extrait de chant grégorien, c'est avant tout cette dimension de recueillement et de prière. Et je crois aussi que c'est ce qui c'est ce que les gens aiment aussi dans le grégorien, cette dimension de recueillement.
Oui, je dirais effectivement c'est très juste. Tout de suite on sent la prière. Et pourquoi est-ce qu'on sent la prière? C'est parce que le chant grégorien nous remet dans l'espace liturgique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, bon là il y a un travail particulier fait sur l'acoustique, c'est un instrument qu'on a fait à l'église de la Résurrection à Paris, qui est une acoustique remarquable, mais ce travail-là peut être fait dans tout. Le chant grégorien nous fait réincorporer en fait l'église comme monument acoustique, comme architecture même, on devrait être plus précis, acoustique. Et c'est parce qu'il y a justement ce retour, ce va-et-vient, on appelle ça la réverbération, l'écho, qu'on est dans une temporalité de réceptivité et de réception et de don, on pourrait dire, qui, lui, nous remet vraiment dans la sphère de la prière. En fait, c'est inhérent. On peut pas le dissocier.
Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude depuis depuis le Concile Vatican II, d'avoir des chants, on va dire, qui suscitent plus, on va dire, émotivité extérieure, on va dire, plutôt qu'une espèce d'intériorité priante. Enfin voilà, j'utilise des termes qui ne sont pas forcément adéquats, mais, c'est vrai qu'il y a... Je ne dirais pas qu'il y a un fossé, mais on n'a pas l'impression d'être dans la même perspective. En fait.
Oui, effectivement. On n'est pas du tout dans la même esthétique. On a effectivement le chant grégorien et tout ce qui s'est déployé à partir du chant grégorien. Et je pense aussi aux polyphonies médiévales et renaissantes et baroques, etc. Sont développées justement dans un esprit où intériorité et extériorité sont toujours en relation. Il n'y a pas de dualité intérieure-extérieure. Tout passe par le souffle, tout est inspiration, expiration, réception, don. C'est vrai que dans l'esthétique, on pourrait dire Vatican II, mais je me refuse à dire Vatican II. Je pense que ce sont plutôt des choix qui ont suivi bien le sûr, concile. Je ne veux pas aller amalgamer. On a effectivement une dichotomie plus... Enfin, une opposition, voilà. Une opposition plus accentuée. Et c'est ça qui... Moi, m'a fait revenir au chant grégorien, en fait, puisque je n'étais pas du tout né dans cet univers-là. C'était cet équilibre, en fait, entre intériorité et extériorité qui m'a attiré, peu à peu, aveuglément au début, puis après plus consciemment, vers justement ce répertoire.
Alors, j'en parlais avec le père Masson il y a quelques semaines sur ce plateau, dans Ecclesia Magazine, que tout ce répertoire extraordinaire de l'Église catholique, que ce soit pour l'orgue, pour le chant, en l'occurrence le chant grégorien, on remarque effectivement que ces dernières décennies, il y a peut-être... un désir de redécouvrir aussi le chant grégorien, cette majestuosité, mais peut-être de préférer l'écouter sur un CD que de l'intégrer dans la liturgie quotidienne et dominicale.
Oui, parce qu'on a beaucoup finalement confié la fonction justement d'intériorisation aux moines, à la vie monastique, ce qui est évidemment va de soi. Mais je trouve que c'est un peu forcé et ça ne correspond pas... C'est une rupture violente par rapport aux habitudes, aux coutumes justement de l'Église catholique, dans le sens où le grégorien a toujours une place en paroisse, certes peut-être moins proéminente que dans les monastères, et encore, ça dépend quel monastère, il y a des monastères qui ont abandonné le grégorien. Donc on ne peut pas non plus généraliser du côté monastique, mais je pense que c'est plutôt été une prise de parti de donner le maximum de place à l'Assemblée. Or, c'est tout à fait, ça peut se comprendre, mais je pense qu'il faut le remettre dans son contexte. Un contexte où on voulait vraiment que les fidèles puissent vraiment mettre part et donner leur part, mettre leur part à eux dans la liturgie. J'ai souvent entendu dire que ce sont les fidèles, que ce sont l'Assemblée qui fait la liturgie. Et là, je pense qu'il y a un réajustement quand même à rétablir. On ne peut pas dire non plus que l'Assemblée fasse la liturgie. L'Assemblée participe à une liturgie qui elle est divine et qui est instrumentalement représentée par le clergé. Donc c'est un processus lui-même qui est transcendant. Et je crois que le grégorien, s'il y a un appel en ce moment, c'est plus ou moins conscient. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est de voir la part cachée, qu'est-ce qui se cache derrière. Je pense qu'il y a un besoin de se reconnecter à la dimension divine, justement, de la liturgie. Que ce n'est pas qu'une fête, le fait d'être présent. La présence, c'est une chose, mais on assiste à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça que le temps de la réception qu'impose le grégorien, moins qu'un cantique en français, reprend sa place. Maintenant, c'est un travail, finalement... plus, j'y reviens, de vulgarisation dans le bon sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le premier barrage qui bloque les gens pour le grégorien? C'est le latin. Je le sais, à chaque fois, j'y ai eu droit d'une manière ou d'une autre. Bon, ben, le latin, personne ne parle latin couramment aujourd'hui, à part quelques spécialistes. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais cette langue, elle est musicale. Elle était porteuse de mélodies magnifiques, d'élan, de spiritualité. Et c'est en plus une spiritualité dont on est héritier.
Ce que vous dites, c'est que finalement, donc, il faut reprendre aussi
Il faut réincorporer cette latinité de manière très simple, en prenant des antiennes, en prenant des versets à psalmodier. Et en redonnant le goût de la langue, parce que je pense que c'est par ça. La question du sens, elle devrait venir après. Il n'a jamais été question au Moyen-Âge que tout le monde comprenne tout. D'ailleurs, les auteurs médiévaux parlent très souvent de la question de la compréhension et disent toujours que si on ne comprend pas, si quelqu'un n'a pas l'éducation, s'il n'est pas suffisamment érudit, dans ces cas-là, c'est le chant qui va le toucher. Et le plus important, c'est ce qui va atteindre son cœur. C'est ce qui va opérer la conversion intérieure. Donc, je pense que là, il y a un décalage, un défaut de vision moderne par rapport à la question du chant grégorien, qui est de tout comprendre, toujours être actif, être partout et tout comprendre. Non, ça a jamais, il n'a jamais été question de ça à des époques plus reculées. Et je pense qu'il faut revenir à cette sagesse. Il ne s'agit pas de tout comprendre, il s'agit de recevoir et de renvoyer, ce qui n'est pas du tout la même dimension, c'est une dimension plus large de l'homme.
C'est peut-être l'écueil d'ailleurs de l'homme contemporain, de vouloir tout comprendre, y compris dans la sphère mystérieuse qu'est la liturgie.
Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Donc du coup, l'aspect mystique, caché, n'a plus sa place. Ce n'est pas qu'il n'en veut pas, au contraire, il en a soif, on en a tous soif. Mais seulement, le mental, lui, tout ce qu'il ne peut pas localiser et préciser, finit toujours par l'expulser de manière inconsciente. Et on arrive quand même à ce genre d'écueil-là. Donc une hyper-participation qui finalement compense un manque d'ancrage et tout simplement de réceptivité. Donc l'enjeu est très important finalement.
Alors la force du grégorien, c'est aussi son histoire. C'est un chant qui a plus de 1300 ans. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la fondation du grégorien et aussi peut-être sur son apogée? Parce que le grégorien, je pense qu'on peut le dire aussi, n'a pas été usé dans l'Église pendant 1300 ans avec force et domination, on va dire.
Oui.
Il y a eu des hauts et des bas.
Alors si on veut parler de l'âge d'or, évidemment les historiens vont se référer beaucoup à l'époque carolingienne, notamment à l'époque de Charlemagne et les dynasties qui en suivront, parce qu'effectivement l'aspect impérial triomphant du grégorien va être utilisé comme instrument d'unité en fait de toutes les églises pour la concorde catholique de l'époque. Voilà. Alors, et c'est à cette époque-là d'ailleurs que vont émerger des hymnes magnifiques, que vont émerger aussi par exemple la litanie des saints qu'on connaît avec les fameuses acclamations carolingiennes. C'est une époque vraiment impériale du grégorien. Mais le terme grégorien à l'époque n'était pas employé. Oui. Donc ça, quand on commence à rentrer un peu dans les méandres, on se rend compte que le grégorien, c'est plutôt à partir du 11e, 12e siècle qu'on va commencer à employer, qu'on va attribuer au pape Grégoire le Grand. Et qu'on va commencer à lui donner une image un petit peu plus, plus historique, comme si finalement on parlait de quelque chose qui avait déjà atteint son apogée, curieusement. Alors, le grégorien, finalement, c'est une vision rétrospective, postérieure. En réalité, on a différentes branches de chants qui se sont réunies d'une manière incroyable à l'époque carolingienne, qui ont donné ce chant grégorien dont on a parlé a posteriori. Mais à toutes les époques, on a eu divers styles, ce qu'on appelle de plein chant, c'est-à-dire un chant assez lent, souvent, il peut être très orné selon les traditions locales, et qui hérite directement des mélodies grégoriennes les plus fameuses, les plus connues. Voilà. Donc c'est à la fois très varié, mais en même temps, on a des racines, on pourrait dire, des racines profondes qui, elles, nous reconnectent avec vraiment le Haut Moyen-Âge et même l'Antiquité chrétienne.
Donc finalement, le grégorien est resté en usage, dans tous les cas, dans les monastères depuis le début.
Oui, dans les monastères, dans les grands centres, ecclésiastiques, que ce soit les cathédrales, notamment les chapitres, les églises majeures, même les églises mineures, puisque à l'époque du Concile Vatican II avait été édité un livre de chants grégoriens pour les églises mineures, pour les petites églises. Oui. Donc normalement, le chant grégorien aurait dû continuer à être diffusé, en tout cas ne serait-ce que les ordinaires, gréco-latins, avec le Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus.
On va parler de ce désir aussi de transmission que vous avez. On va voir si il peut aussi se populariser, si il peut se populariser dans toutes les paroisses, peut-être, de province et catholique et du monde même. Mais avant cela, on va écouter un deuxième extrait que vous nous avez apporté également, Solem Justitiae. Peut-être pouvez-vous nous le présenter rapidement.
Alors c'est un répon qui est attribué à Fulbert de Chartres, donc qui a été à la fois chantre et évêque de la cathédrale de Chartres au tournant de l'an 1000, et qui est un répon dédié à la Vierge. Je donne simplement le sens du texte. Alors juste le latin rapidement et le français, la traduction. Solem Justitiae Regem Paritur Supremum. Celle qui va engendrer le soleil de justice, le roi suprême, Marie, l'étoile de la mer, aujourd'hui s'est avancée vers l'Orient. Donc là, c'est un magnifique répon que j'ai enregistré dans mon dernier CD de l'homme médiéval Vox in Rama, qui s'appelle Lignum Vitae, l'arbre de vie, et qui a servi, entre autres, à la construction de polyphonie absolument géniale où on mélangeait chant ecclésiastique et chant profane. Mmh. Donc en fait, c'est pour aussi montrer que le chant grégorien, là que vous allez entendre dans son état pur, a servi au Moyen-Âge, a été beaucoup recyclé dans des compositions, dans beaucoup d'œuvres expérimentales en fait.
On l'écoute. Donc là, on a pu l'entendre, c'était des chœurs féminins.
Voilà, Grégorien chantait
à noter quand même.
Oui.
Alors, Frédéric Rentière, c'est vrai que quand on écoute ces chants grégoriens, il y a aussi cette émotion de se dire que nos ancêtres, d'il y a peut-être 1000 ans, 1200 ans, chantaient exactement le même chant avec la même tonalité.
Oui, oui. Mmh. Alors, avec la même tonalité...
Oh, peut-être pas.
On peut-être, certainement oui, peut-être ouais. pas, ou de manière plus variable. Mais effectivement, remettre, c'est la question des pas en fait, c'est la question des vestiges et des pas. Hein. Vous savez, en latin, vestigia veut dire à la fois trace et trace de pas, et, donc et témoignage laissé. Et c'est vrai que la liturgie a une fonction mémoriale. Et le chant, lui, est une partie essentielle de justement de cette commémoration, mais plus que dans le sens vraiment spirituel, c'est-à-dire de se laisser porter par un mouvement, par des émotions qui, elles, ont été vécues et revécues et on peut dire qui ont tourner à l'intérieur des êtres. Hein. Et c'est cette dimension de reconnexion finalement à un passé qui n'est pas mort, qui n'est pas finalement à voir comme quelque chose de figé qui serait en opposition avec la liberté de l'individu, mais serait plutôt un passé régénérant et qui donnerait, permet de donner un allant vers l'avenir en fait. Et c'est ce qui se passe avec des gens, par exemple, qui n'ont jamais chanté du grégorien dans l'atelier ou dans les stages que j'organise. C'est le même constat.
C'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il y a un allant, il y a un élan, il y a un allant qui surprend des gens qui, eux, par curiosité, sont dire « Tiens, je vais essayer ». Je vais voir ce que c'est. Les Grégoriens, j'en ai entendu parler, mais je vais faire la part des choses entre ce que j'ai entendu dire et ma curiosité, et qui sont très surpris par cet élan. Et cet élan a toujours été, justement. C'est ce qui fait le cœur, justement, du Grégorien.
Est-ce que les élèves de tout âge, j'imagine, qui viennent à vous...
Génération. J'ai vraiment des générations très différentes. Ouais.
En apprenant le chant grégorien, est-ce qu'ils se disent, au final, peut-être qu'effectivement, on pourrait intégrer le chant grégorien dans ma paroisse, peut-être.
Oui. Alors, c'est le cas, émules. Justement, de l'atelier d'initiation au chant grégorien qui est soutenu depuis 2 ans par les amis du chœur grégorien de Paris, que je remercie infiniment. C'est quand même grâce à eux que l'impulsion a pu prendre. Se disent ça. Alors, j'ai beaucoup de paroissiens de paroisses parisiennes et Île-de-France qui me disent, mais en fait, c'est pas si difficile. Le tout, c'est de prendre des choses qui soient convaincantes et qui fasse sauter finalement le catafalque un peu lourd de préjugés sur la difficulté. On voit bien qu'une petite antienne à une hymne n'est pas si difficile, que le latin c'est pas une langue barbare, qu'au contraire c'est une langue musicale, plus musicale que le français de manière générale quand même, surtout quand on fait les accents, quand on le prosodie, et que il y a une espèce de quelque chose qui coule en nous, qui fait que c'est tout à fait possible. Mais on l'envisage d'un aspect différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment franchir le pas. Et je pense que c'est ce pas-là qui est à franchir maintenant et qui est simple à franchir.
Alors, où se déroulent ces cours?
Alors, ils se déroulent dans les paroisses où on a la possibilité de répéter. Il arrive parfois, d'ailleurs, qu'on nous demande de chanter pour la liturgie, en échange, finalement, du prêtre-salle qu'on nous propose. Et d'ailleurs, en ce moment, nous cherchons d'ailleurs une église ou des églises dans Paris qui seraient intéressées pour nous accueillir.
On appelle à tous les curés parisiens.
Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, on fait toujours un peu en fonction des disponibilités, on s'adapte. Et il arrive quelquefois qu'on ait chanté pour les liturgies paroissiales. J'ai quelquefois des réactions de gens dans l'assemblée qui m'ont dit « Ah, on ne pensait pas que le grégorien, c'était ça ». Donc ça, c'est quand même très révélateur. Alors, je dis, qu'est-ce que c'était pour vous? Ben, pour nous, c'était plus lent ou moins vivant, ou etc. Donc, il y a quand même une association inconsciente entre lent, ennuyeux, lenteur, etc. Alors que c'est tout sauf ça.
Est-ce que Frédéric Rentière, et c'est ma dernière question, vous pensez qu'on peut assister, parce que la liturgie évolue, va et vient, à une espèce de régénérescence du grégorien dans la liturgie?
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que c'est ce qui peut se passer en ce moment, oui.
Merci Frédéric Rentière, merci d'être venu témoigner de votre passion du chant grégorien. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à votre atelier d'initiation. Vous changez de lieu assez régulièrement, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de Frédéric Rentière, frédéricrentière.com, ou de le contacter sur son adresse mail frdiscantus09@gmail.com. Merci à vous.
Ecclésia Magazine vous a été présenté avec la Fondation nationale pour le clergé.